Chapitre 17. Luc ne donne pas de détails sur leur passage à Amphipolis et Apollonie, mais va parler de ce qui a eu lieu à Thessalonique. Remarquons que dans ce chapitre, nous ne trouvons pas le pronom « nous ». Il est donc possible que Luc, n'ayant pas été aussi impliqué que Paul et Silas dans les troubles survenus à Philippe, soit resté dans cette ville pour aider les croyants. Selon sa coutume, Paul s'adresse d'abord aux Juifs dans leur synagogue. Le verset 3 nous montre comment il les aborde. Il leur explique, d'après leurs propres écritures, qu'il fallait que le Messie, lorsqu'il viendrait, souffre et meure, et qu'il ressuscite d'entre les morts. Ceci établi, il était simple de leur prouver que Jésus était bien le Messie. Ainsi, en un seul verset, en peu de mots, toute la vérité nous est résumée. Quelle qu'ait été la durée des discours, le problème entier est résumé dans ces quelques paroles. Elles peuvent servir de guide à tous ceux qui, aujourd'hui, s'adressent à des Juifs. Tous ne crurent pas, mais quelques-uns furent persuadés, de même qu'une grande multitude de Grecs qui servaient Dieu et un assez grand nombre de femmes de premier rang. À Philippe, l'émeute avait été suscitée par des gentils déçus d'avoir perdu l'espérance de leur gain. À Thessalonique, des Juifs incrédules sont à l'origine d'une opposition et d'un désordre pire encore. En traitant Paul et Silas de gens qui ont bouleversé la terre habitée, ils rendent un tribut involontaire à la grande puissance de l'Évangile prêché avec le Saint-Esprit descendu du ciel. Ils pouvaient s'opposer à la prédication, mais il leur était impossible d'en arrêter la progression. Cette émeute met fin au service de Paul à Thessalonique, car il servait dans l'esprit de l'instruction du Seigneur, rapporté en Matthieu 10, verset 23, « Mais quand on vous persécutera dans cette ville, fuyez dans l'autre. » Aussi se rendent-ils maintenant à Bérée, où les Juifs manifestent des dispositions très différentes. Ils font preuve d'ouverture d'esprit et sont caractérisés comme étant plus nobles. Après avoir entendu par Paul ce que les Écritures annonçaient, ils se mirent à les examiner diligemment et plusieurs d'entre eux crurent. Un esprit bien disposé, libre de tout préjugé et qui reçoit avec bonne volonté la parole, peut bien être qualifié de noble. Mais l'hostilité des Juifs de Thessalonique à l'égard de la parole de Dieu est telle qu'ils pourchassent Paul à Bérée. Et face à ces nouveaux troubles, il fuit à Athènes, échappant à ses persécuteurs par une simple ruse. Silas et Timothée restent à Bérée, car alors il est évident que Paul est le principal objet d'animosité. C'est ainsi que pour sa visite à Athènes, le grand centre de la culture et de la sagesse grecque, Paul est tout seul en ce qui concerne son service. Athènes était le centre par excellence de la science et de la philosophie grecque. La ville était aussi remplie d'idoles. La culture humaine la plus élevée et l'idolâtrie la plus grossière peuvent cohabiter tout à fait amicalement. Paul arrive au milieu de cet état de choses et ce spectacle excite son esprit au-dedans de lui. Bien que ses compagnons ne l'aient pas encore rejoint, il ne peut rester inactif et il commence à rendre témoignage tant aux Juifs qu'aux gentils. Il attire ainsi sur lui l'attention de certains philosophes et ces hommes, qui se rattachaient pourtant à des écoles différentes et le traitaient avec mépris, sont suffisamment intrigués pour désirer en entendre davantage. C'est ainsi que Paul a l'occasion de parler devant les intellectuels les plus cultivés de cette époque. Les versets 18 à 21 nous donnent un aperçu des conditions qui prévalaient à Athènes. Il régnait une activité mentale intense et une recherche insatiable d'idées nouvelles. Ils ne passaient leur temps à autre chose qu'à dire ou à ouïr quelques nouvelles, naturellement pas des simples commérages ou bavardages, mais les notions philosophiques les plus évoluées. Aussi, lorsque Paul leur annonce Jésus et la résurrection, ils reçoivent sa prédication comme une grande nouveauté liée à des divinités dont ils n'avaient jamais entendu parler jusque-là. Les épicuriens croyaient qu'on parvenait au bien le plus élevé en satisfaisant ses propres désirs, et les stoïciens qu'on l'atteignait en les réprimant. Mais qu'en était-il de ces nouvelles idées? Paul commence son discours sur la colline de Mars, ou Aréopage, en leur reprochant d'être trop superstitieux, d'être voués au culte des démons. Parmi leurs innombrables sanctuaires, ils avaient même un autel dédié au Dieu inconnu, pour qu'il n'y ait pas un démon, inconnu d'eux, qui doive encore être apaisé. L'apôtre relève ce point et en fait le thème de sa prédication, car il était parfaitement vrai que le Dieu vivant leur était tout à fait inconnu. Paul leur annonce le Dieu qu'ils ne connaissaient pas, et l'examen du bref compte-rendu de son discours nous indique de quelle manière il place Dieu devant eux. Pour ce qui en était des choses de Dieu, ces Athéniens cultivés étaient tout simplement des païens. Aussi nous est-il démontré ici comment l'Évangile devrait être présenté à des païens. Paul commence par parler de Dieu comme le Dieu créateur. En tant que tel, il est à la base de tout. Si nous ne le connaissons pas ainsi, nous ne le connaissons pas du tout. Cela explique pourquoi la théorie de l'évolution opère tant de ravages. Sa principale attraction, pour plusieurs, est qu'elle leur permet de se passer entièrement de Dieu, ou du moins de le repousser dans un arrière-plan si lointain qu'il ne vaut pas la peine de penser à lui. Paul le met au premier plan du tableau qu'il dresse. Non seulement il a fait le monde, mais aussi toutes les choses qui y sont. Il ne peut pas habiter dans les temples érigés par les hommes, ni être adoré comme s'il dépendait de leurs mains. Il est, lui, le dispensateur de la vie et de toute chose. Tous les hommes sont ses créatures. Il a fait d'un seul sang toutes les races, et il a déterminé les temps ordonnés et les bornes de leur habitation. Ils avaient conservé quelques lueurs de cette vérité, et Paul peut leur citer certains de leurs propres poètes qui ont parlé de l'humanité comme étant la race de Dieu. En cela, ils avaient raison. Nous ne devenons enfants de Dieu que par la foi dans le Christ Jésus, mais tous les hommes sont sa race, étant ses créatures. Ainsi, nous ne devons pas concevoir Dieu comme nous étant inférieurs ou comme étant une œuvre de nos mains, et nous devons être ceux qui le recherchent. Son immanence est reconnue dans les paroles « En lui nous vivons et nous nous mouvons et nous sommes ». Pourtant, Paul l'annonce comme celui qui est transcendant, celui qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Mais ce Dieu créateur est aussi un Dieu de patience. Les hommes n'ont pas voulu retenir Dieu dans leur connaissance, et les nations sont ainsi tombées dans l'ignorance de Dieu. Pendant un certain nombre de siècles, les Athéniens se sont glorifiés de leur culture et de leur science, et pourtant, tout au long de cette période, ils étaient dans les temps de l'ignorance, l'ignorance de Dieu. Et Paul le leur dit clairement. Mais Dieu a fermé les yeux sur leur ignorance, ou passé par-dessus leur ignorance, usant de patience en vue de ce qu'il allait faire par Christ. Maintenant, Christ est venu, et Dieu se proclame comme un Dieu de juste jugement. Il a établi le jour auquel il prendra les rênes du gouvernement par l'homme qu'il a destiné à cela. La terre tout entière sera alors jugée et administrée en justice. En vue de ce jour, la repentance est la seule chose qui convient à des hommes injustes, en tout lieu. C'est l'unique échappatoire. C'est pourquoi Dieu l'ordonne. La preuve de la venue de ce jour du juste jugement a été donnée par la résurrection de l'homme que Dieu a destiné à cela. Ainsi, Paul termine en présentant Dieu comme le Dieu de résurrection. Un événement échappant entièrement à tous les calculs humains s'était produit. Jésus avait été tiré hors de la mort à laquelle l'homme l'avait livré. Paul avait commencé son service à Athènes en annonçant Jésus et la résurrection parmi les ouvriers sur la place publique. Il le termine avec le même sujet lorsqu'il s'adresse aux philosophes sur l'Aréopage. Les cerveaux actifs de ces penseurs étaient occupés du monde de l'homme. Aussi la résurrection était-elle tout à fait hors de leur champ visuel. C'était une absurdité pour la plupart d'entre eux, et ils s'en moquent. D'autres manifestent un peu d'intérêt, mais remettent à plus tard un examen approfondi, ne voyant aucune urgence en la matière. Mais quelques-uns, hommes et femmes, croient, et ceux-ci unissent leur destin à celui de Paul. Ces trois classes apparaissent généralement là où l'Évangile est annoncé. Il y a les moqueurs, ceux qui remettent à plus tard, et ceux qui croient. Le séjour de Paul à Athènes est de courte durée. Il n'attend pas plus longtemps l'arrivée de ses compagnons, mais se rend à Corinthe. Il est donc probable que ceux qui ont dit « Nous t'entendrons encore sur ce sujet » n'en ont pas eu l'occasion.